Périscope, l'émission des littératures sous-marines, mais pas que. Bonjour à tous, nouveau numéro particulier de Périscope avec un invité unique, une invitée, Agnès Fréchel, qu'on remercie d'être présente ici avec nous dans le studio de Radio Grenouille. Pour évoquer avec elle, eh bien évidemment, le mensuel culturel gratuit Zibline. C'est un mensuel culturel qui nous renseigne sur l'ensemble des manifestations dans la région PACA. Mmh. On va revenir sur son origine, sur sa nature, sur sa destination. Et pour ces trois points qu'on va évoquer ensemble, Aude Fanlo est aussi avec nous. Donc on commence tout de suite.
Oui.
Oui, Agnès. Donc, tout simplement, Zibline, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est bien que ce mensuel culturel gratuit qu'on trouve un petit peu partout en région PACA, il faut commencer par le commencement, l'origine. Alors, comment a démarré cette aventure ?
Cette aventure a démarré en septembre 2007. Comment par une réunion de gens, puisqu'on est un journal à la base associatif. Et on a eu envie de produire quelque chose d'un petit peu épais et complet sur la vie culturelle régionale, entendu au sens large, c'est-à-dire pas uniquement le spectacle, mais aussi la littérature, la culture scientifique, l'histoire, le patrimoine de la région. Très très vite, la mayonnaise a pris, puisqu'on est passé de 64 pages à 72, puis à 80, donc on s'est épaissi très vite et on a aussi diffusé de plus en plus vite et de plus en plus large. Puisqu'au départ, on était centré sur les Bouches-du-Rhône et maintenant, on est effectivement en PACA.
D'accord. Donc, on peut trouver Zibline dans quel type d'endroit, en fait ?
Dans quel type d'endroit ? Dans les lieux de spectacle, essentiellement. Dans aussi les librairies, les bibliothèques, les musées, les lycées, certains lycées en tous les cas, les établissements d'enseignement supérieur, les facs, donc. Et puis, certains bars, certains restos qui ont envie de nous avoir et les cinémas, bien sûr.
D'accord. Alors, revenons un peu précisément maintenant sur la nature. Vous avez dit 80 pages. Mm-hmm. Donc, tous les mois, 80 pages depuis plusieurs mois maintenant. Mm-hmm. Ça fait beaucoup, beaucoup à lire. Et c'est vrai que quand on est tombé dessus avec Aude, c'est cette profusion, mm-hmm. cette variété dans les articles qui est absolument phénoménale. Donc, qui vous distingue des autres mensuels culturels gratuits, qui ne sont pas forcément mensuels d'ailleurs, et qui n'ont pas cette profusion. Alors, pourquoi cet accent sur cette variété-là ?
On a fait le pari que les gens avaient envie de lire. Hein, et de lire pas seulement de l'information, de lire aussi des articles de fond, de l'analyse, et d'avoir des retours sur ce qu'ils ont vu, qui soient réflexifs, qui ne soient pas uniquement sur aller voir ça parce qu'on l'a vu et c'est bien, mais aller voir ça parce que c'est bien pour ça.
Et, alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple que vous avez suivi, vous particulièrement, de spectacle qui a pu donner lieu peut-être à débat, puisque vous avez des réunions en comité de rédaction. Donc, sur ce retour réflexif, est-ce que vous avez un exemple, par exemple, je ne sais pas, quel est le dernier spectacle que vous n'avez pas aimé
Le dernier spectacle que j'ai pas aimé. Non, je vais pas parler du dernier spectacle que j'ai pas aimé, parce qu'on a aussi pas envie forcément d'aller dans ce sens-là. Dire les choses qui nous plaisent pas, bien sûr, mais pas forcément appuyer dessus. Les choses qui suscitent débat, qui ont suscité débat en tous les cas dans la ligne éditoriale par rapport au spectacle vivant, c'était est-ce que on défend une esthétique particulière ou est-ce qu'on défend toutes les esthétiques à partir du moment où dans leur domaine, dans leur manière de faire, elles nous paraissent justifiées, valables et intéressantes. Le parti qu'on a pris est de ne pas défendre d'esthétique particulière, mais de défendre des œuvres. Peut-être plus l'œuvre que le projet de l'œuvre, en même temps en rendant compte des démarches des artistes le plus possible. Et d'être plus dans l'après-coup que dans l'annonce. Parce que ça nous paraît plus intéressant de parler des choses qu'on a vues que des choses dont on a simplement lu le dossier de presse.
Bien sûr. Donc là, vous parliez du spectacle vivant, mm-hmm. donc théâtre, danse, concert, mais il y a toutes ces pages, et ça c'est quand même très intéressant quand on feuillette le mensuel, toutes ces pages consacrées aux livres, mm-hmm. aux rencontres littéraires, à des pages thématiques, hein, philosophie, histoire, ça c'est quelque chose qui est venu après ou qui s'est développé beaucoup plus après ?
Non, c'est initial dans le projet. On a dit qu'on faisait moitié-moitié, en fait, hein, culture ouais. vivante et puis et le reste de la culture, ce qui est un peu étrange, mais c'est un peu ça.
Oui, qui est aussi vivant, mais
oui, c'est aussi vivant. Oui.
Qui bouge pas tout seul, quoi.
Voilà, qui bouge pas tout seul, qu'il faut aller chercher un petit peu plus.
Voilà.
Non, on pense que la presse culturelle s'en tient beaucoup trop au spectacle vivant, donc bien sûr qu'on avait envie de faire des articles qui ne soient pas des articles de presse spécialisés, parce qu'on n'a pas envie non plus, je veux dire, il y a des très bons magazines comme Art Press ou Lire ou des magazines littéraires intéressants. On n'a pas envie d'entrer dans une démarche de spécialiste, on a envie que tout le monde puisse lire les rubriques,
ouais.
mais en même temps, on a envie de parler des œuvres qui sont intéressantes. Donc on essaye toujours de parler des œuvres intéressantes sans imposer un vocabulaire de spécialiste, mais de la même manière qu'en parlerait des spécialistes, c'est-à-dire que chacun des rédacteurs des rubriques est un spécialiste de sa rubrique.
D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut revenir maintenant sur l'aspect, je dirais, économique de la chose, hein? Donc, un mensuel culturel gratuit, comment ça se finance? Qui finance? Comment ça se diffuse? À combien d'exemplaires?
Alors, qui finance? La publicité. Hein, puisqu'on est un gratuit.
Mais d'institutions culturelles, c'est ça
La publicité, de, on est très suivi par tous les lieux de spectacle,
hein,
par les théâtres, les compagnies de danse, enfin les lieux de danse plus exactement, certains musées, les lieux de musique, les opéras, qui nous prennent de la publicité régulièrement et qui ont passé des partenariats avec nous de façon à en prendre régulièrement sur à peu près tous leurs spectacles. Ce marché-là, c'est un marché, c'est un petit peu bizarre de les appeler marché, mais c'est bien ça. C'est-à-dire qu'ils se servent aussi de nous pour communiquer, c'est-à-dire que c'est de la publicité qui est aussi de l'information culturelle. Après, on a encore des tas de zones à explorer dans les librairies, les maisons d'édition. Donc on pense qu'il y a encore un marché culturel qu'on connaît moins et qui est moins habitué à communiquer dans la presse. Et qu'il faudra sans doute qu'on prospecte en termes marchands. Après ça, on a effectivement des publicités des collectivités territoriales, la région et le département 13, qui nous prennent des pages de publicité de temps en temps. La ville de Marseille qui va commencer à en prendre aussi dans le prochain numéro.
Ah, très bien.
Et puis on en attend d'autres. Et puis on attend aussi que les gens s'intéressent de plus près à nous à ce niveau-là, puisque on pense qu'il y a encore des tas de collectivités territoriales qui pourraient communiquer sur les événements qu'ils mettent en place eux-mêmes.
Oui.
Les événements culturels qu'ils mettent en place eux-mêmes.
Très bien. Donc tout ça pour aboutir à combien d'exemplaires diffusés sur combien de départements ?
On tire à 25 000 exemplaires minimum, c'est-à-dire qu'il y a certaines éditions qu'on tire un peu plus. Selon la demande. On est assez vite débordé, c'est-à-dire que c'est un mensuel qui part la première semaine, ce qui est un petit peu embêtant. Il faudrait qu'on tire plus, mais on n'a pas l'argent pour ça. On est diffusé essentiellement dans les Bouches-du-Rhône, à peu près la moitié des 25 000 exemplaires.
25 000, oui.
Et puis Var, Vaucluse, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes.
D'accord.
Donc toute la région PACA, sauf les Alpes-Maritimes, dans lesquelles on ne va pas encore, mais on compte y aller. Et puis aussi un petit peu Nîmes, qui nous a sollicité pour qu'on vienne, donc on y va.
Ah, très bien, voilà. D'accord, donc vous dépassez les frontières.
On dépasse simplement un petit peu sur Nîmes la frontière de la région PACA,
d'accord.
Parce qu'ils ont envie de communiquer en PACA aussi,
d'accord.
Je pense.
Alors, je crois aussi qu'il existe un site internet.
Il existe un site internet qui est un petit peu minimal pour l'instant, qu'on espère développer.
Qu'est-ce qu'il permet de faire?
Il permet...
Est-ce qu'on peut s'abonner? Parce qu'on a voilà une autre source potentielle de financement. Mm-hmm. C'est l'abonnement. Hein. Ça peut paraître un peu paradoxal de s'abonner à un gratuit. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, on ne s'abonne pas qu'à un gratuit. On adhère à une association, c'est ça ?
Voilà. Donc, je vous parle d'abord du site internet et après de l'association, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc, le site internet, en fait, pour l'instant, c'est un site minimal. Donc, on ne peut pas s'abonner dessus, par exemple.
D'accord.
On essaye simplement de publier le journal en ligne pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Et puis de mettre des articles qui réagissent à une actualité, puisqu'avec un mensuel, on ne peut pas forcément réagir à l'actualité. Et puis aussi des articles de fond, parce que malgré nos 80 pages, mes rédacteurs ont envie d'avoir plus de place.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, on a entendu parler des 1500 signes, là, c'était... C'est une torture, quand même.
C'est une torture pour certains. 1500 signes, c'est beaucoup, beaucoup trop court.
C'est beaucoup trop court. Donc, alors maintenant, l'abonnement ?
Alors, l'abonnement. Alors, en fait, ce n'est pas un abonnement, c'est une adhésion. On est une amicale, c'est-à-dire qu'on est une association à la base. Et une association fonctionne avec des adhérents, c'est-à-dire que on attend des gens qu'ils fassent un geste de... pas de soutien, parce que c'est pas tout à fait ça, mais d'avoir, qui montrent qu'ils ont envie d'être partie prenante de l'aventure.
D'accord.
On est très bien suivi par nos partenaires, qui sont l'autre volet, si vous voulez.
L'association
fonctionne. Voilà, les partenaires culturels. Vous avez l'association qui fonctionne avec des membres et avec des partenaires. Les partenaires culturels qui offrent des places, qui offrent des avantages, qui offrent des réductions. On a un certain nombre de librairies, de maisons d'édition, et puis beaucoup de théâtres, le GTP, le Grand Théâtre de Provence, le Pavillon Noir, qui offrent des places très régulièrement. Et nos adhérents peuvent bénéficier de ces places. Ce qui, économiquement, rend très rentable l'adhésion, puisque une adhésion à 40 euros est rentabilisée en deux ou trois places.
D'accord, voilà. Donc c'est 40 euros l'année, hein, pour c'est l'adhésion.
Pour l'adhésion, on a diverses formules d'adhésion qui vont de 25 euros sans abonnement, justement,
d'accord,
à 150 euros si c'est 10 adhésions et 10 abonnements.
D'accord. Voilà. D'accord. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien déjà ou qui pourrait s'étendre, selon
ça,
vous ?
Ça pourrait toujours s'étendre. Ouais. On a 500 abonnés, ce qui pour un journal gratuit est effectivement assez étonnant.
Ouais.
Mais on espère bien que ça s'étende, oui. On aimerait bien que ça s'étende dans les collectivités, c'est-à-dire qu'on ait des comités d'entreprise, des CDI, des associations qui s'abonnent et qui fassent bénéficier donc à leurs membres indirectement de l'adhésion à l'amicale.
Alors vous parlez justement des CDI, donc des centres de documentation, d'information dans les établissements scolaires.
Oui.
Récemment, vous avez initié un partenariat avec un certain nombre de lycées.
De lycées et de collèges. Oui.
Et de lycées-collèges, alors que font les élèves de ces lycées et collèges ?
Les élèves de ces lycées et collèges écrivent des articles. Des articles qui sont en collège... pour lesquels ils reçoivent une aide de leur enseignant, hein, et en lycée, qu'ils écrivent plutôt tout seul en autonomie. Ce sont des articles, ou pas des articles, c'est-à-dire parfois ce sont véritablement des articles écrits comme des critiques, et parfois des billets d'humeur, des haïkus écrits sur les spectacles.
Voilà, donc, toujours en relation avec la vision d'un spectacle.
Avec la vision d'un spectacle, ou d'une exposition, ou d'un concert. Là, on va avoir des critiques de livres aussi, sur le prix du livre lycéen. Et en fait, on se rend compte que les lycéens sont extrêmement inventifs dans la forme. Ils se permettent de sortir du schéma traditionnel de l'article avec une grande facilité, peut-être parce qu'ils n'en ont pas idée, ou je pense plutôt parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Et c'est très, très, très intéressant de voir comment ils s'approprient l'écriture après le spectacle.
Alors, ces articles, on les trouve à la fin de Zibline, vers les pages 79-80, donc. Et c'est intitulé la page des Zibulons.
Ce sont nos Zibulons, oui.
Voilà, les Zibulons. En Zibulon, Zibeline, évidemment, on va arriver à la question. Fatal, mais pourquoi ce nom Zibeline ?
Pourquoi ce nom Zibeline ? Alors, la Zibeline.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit mammifère carnivore, en fait omnivore, donc curieux de tout, qui mange tout ce qui lui passe sous la dent. Et ça nous plaisait bien, cette petite bête curieuse et avide. C'était un petit peu c'est un symbole qui nous plaisait. Et à part ça, honnêtement aussi, le Z nous plaisait bien, graphiquement, et puis parce qu'il sonne. Et puis autre chose aussi, la Zibeline, c'est une fille... Et on est essentiellement une équipe de filles, quand même.
Ah, d'accord. Mm-hmm. Alors, mais c'est aussi une petite chose toute blanche, là, qu'on chasse pour sa fourrure, non ?
C'est une chose toute blanche ou marron, rayée parfois, qu'on chasse effectivement pour sa fourrure, donc qui est aussi le symbole d'un certain luxe
D'un certain objet du désir aussi.
D'un certain objet du désir et d'un luxe, oui, une petite bête quand même.
Oui, oui. Bon, donc cette zibline là qui furette, si je peux me permettre, qui se faufile un peu partout. Donc il y en a combien de ziblines? Parce que vous dites que vous êtes une équipe. Combien vous êtes dans cette équipe? Comment ça fonctionne? Vous avez un comité de rédaction? Vous tenez le rythme?
On a un comité de rédaction, oui, effectivement. On se réunit au moins une fois par mois pour décider du numéro suivant et de ce qui va y figurer. Le comité de rédaction correspond d'ailleurs au conseil d'administration de l'association, puisque c'est vraiment une aventure collective à ce niveau-là.
Donc vous êtes 5, 6, 10
On est 20.
20, voilà.
Oui, plutôt 20. Ouais.
Donc ça va être animé, hein, j'imagine.
C'est assez animé, oui. Oui, bon. C'est assez animé.
Bon, très bien. Ben voilà, donc peut-être qu'on a fait un petit peu le tour de ce mensuel. À moins que vous voyez un autre élément. Enfin, moi, je retiens qu'il y a profusion, engagement critique, participation à un débat culturel pour une région et une population qui en redemande, puisque ça fonctionne, hein, malgré toutes les annonces un peu négatives qu'on vous faisait sur votre projet, on en parlait avant l'émission, eh bien, ça fonctionne d'une façon absolument incroyable. Et il y a énormément d'avantages à s'abonner. Donc, courez prendre un zibline dans un des lieux culturels qu'on vous a indiqué. Envoyez un message par le site internet. Je pense qu'on peut vous écrire par ce moyen-là aussi. Et adhérez à l'association. Prenez vos places gratuites. Allez au spectacle. Voilà. Donc, faites vivre ce mensuel. Il le mérite amplement. Et c'est pas parce que Aude et moi-même nous y avons écrit un petit article qu'on fait de la pub pour ce mensuel, hein, c'est que c'est vraiment dans l'ensemble des productions quelque chose de tout à fait unique et qui vraiment mérite, en plus dans la perspective de Marseille-Provence 2013, je suppose que ce numéro-là a été tiré peut-être un peu plus d'exemplaires que les autres, non? Au moment de Marseille-Provence 2013
Non, c'est pas celui-là. Non. C'est son numéro Festival et Rentrée qu'on tire un petit peu plus. Sur la vie culturelle ici, on est quand même extrêmement surpris de voir que avec le contexte plutôt morose, la vie culturelle va plutôt bien, même si elle va mal économiquement à cause des restrictions. On se rend compte que moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis dans la critique de spectacle. Je n'ai jamais vu les salles aussi pleines. Je n'ai jamais vu les gens aussi enthousiastes et aussi contents de venir au spectacle. Il me semble que les librairies vont plutôt bien aussi et vendent plutôt bien. Et c'est un signe de quelque chose qui se passe et qui est à surveiller et qui est extrêmement réjouissant, en fait.
Non, mais on va se réjouir avec vous, on va vous soutenir, on va vous lire. Nous allons adhérer publiquement, on peut le dire. Hein, donc Aude, on adhère.
Je m'y engage avec d'autant plus d'intérêt que vraiment ce zibline-là serait vraiment le symbole de cette espèce d'avidité qui est en fait de tous les côtés. C'est-à-dire c'est quand même un magazine gratuit qui fourmille de bénévoles pour écrire et vous en avez plutôt trop que pas assez, qui fourmille de lecteurs et vous en avez plutôt trop que pas assez aussi. Donc c'est vraiment une très très belle aventure qui en effet témoigne d'une belle santé et un peu inattendue de la culture dans notre région.
Voilà, donc ça nous fait plaisir. Enfin, il n'y a jamais trop de lecteurs, hein, Audin, quand même. Et donc, bon, mais voilà, donc cette vitalité artistique et culturelle, c'était normal qu'elle vienne s'épancher un peu sur les ondes de Radio Grenouille, puisque c'est quand même là aussi hein, une radio qui a un peu le même état d'esprit. Ben, nous remercions encore Agnès Fréchel.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup d'être passé nous voir et à tout de suite pour la suite de l'émission.
जब से देखी उसकी आंखें हैरत में हैं मेरी आंखें देखो तो वो जादू जैसी सोचो तो खुशबू जैसी हो गई के बेखुदी मेरे हर एक ख्याल में सोचा था जिसको तू है वही
चाहा था जिसको तू है वही
जाने मन जाने वफा कहूँ तेरे सिवा किससे दिल की बात À plus finir,
un grand bonheur qui prend sa place.
Les ennuis, les chagrins s'effacent. Heureux, heureux à mourir.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie au rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots doux.
Voilà, retour sur Périscope. Donc, toutes nos excuses hein, pour cet intermède musical absolument extravagant. Voilà, donc vous pouvez faire retour à l'original quand vous voulez. Et bon, c'était bien amusant. Donc, mais suite et fin de Périscope, quelques minutes pour évoquer un film, un blog. On commence par le film, Aude.
Eh bien, moi, je voulais vous faire part d'une découverte. Un film du tchécoslovaque Hertz, qui s'appelle L'incinérateur de cadavres, sur lequel je suis tombée par hasard à la bibliothèque et qui est un pur joyau. Voilà, alors c'est l'histoire tout à fait abominable d'un bon petit bourgeois employé modèle dans un four crématoire. Il est très bon père de famille, il est très bon mari, il est travailleur exemplaire. Et au moment où l'Allemagne nazie va envahir la Tchécoslovaquie, il s'aperçoit tout d'un coup qu'il est certainement arien et que par contre sa femme est certainement juive et donc il décide d'exterminer toute sa petite famille et tout ça dans la béatitude la plus complète puisqu'en même temps il se prend pour le nouveau Dalai Lama. Donc tout ça dans la joie et l'exaltation sainte de sa mission. Donc c'est tout à fait abominable, ça repose sur une blague de très mauvais goût, disons, et sur l'association entre les fours crématoires dans lesquels on brûle les cadavres et bien sûr les fours crématoires du nazisme. Et à partir de cette idée de très mauvais goût, il y a tout un développement comme ça sur ce qui fait qu'une société, dans ses rêves hygiéniques, dans ses rêves de pureté, dans ses rêves d'élimination, de la mort, des viscères, etc., peut fabriquer des monstres tout à fait obéissants, tranquilles, placides, qui vont commettre des horreurs. Alors c'est un film d'une beauté esthétique fascinante. Ça commence par 10 minutes comme ça de plan fixe dans un noir et blanc vraiment extraordinaire. Et avant le générique, donc il y a ces plans fixes en très gros plans, on filme, ça se passe dans un zoo, et on filme des gros plans d'animaux superposés à des gros plans d'humains, des visages, des morceaux du visage, de la chair, les cils. Et alors, on ne comprend absolument pas ce qui se passe, l'histoire n'a pas commencé, même pas le générique, mais tout de suite, ça nous plonge dans cette espèce de zone effrayante de l'homme qui est quelque part entre le reptile et le papillon. Et dans cette espèce de rêve d'un cosmos qui serait une création parfaite, organisée, si bien ordonnée, et qui serait en même temps une cosmétique, un maquillage lustrant, et qui serait en même temps une espèce d'enfer grouillant, de chair, de poils, et de choses qu'on s'emploie à éliminer, comme ça. Donc le film, quand il est sorti en 68... à Prague, était d'une portée subversive absolument extraordinaire. Le réalisateur dit que il y avait vraiment qu'en 68 qu'il aurait pu filmer ça. C'était la seule époque de liberté, la seule année de liberté de son pays. Et malheureusement, elle a été de très courte durée parce que c'était à ce moment-là que les Soviétiques ont envahi Prague. Et du coup, évidemment, l'invasion allemande s'est superposée à l'invasion soviétique actuelle et le film a été interdit pendant 20 ans. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment un bijou à la fois féroce, réjouissant, plastiquement parfait, inventif, une pure merveille. Donc procurez-vous-le à tout prix, n'est pas facile.
On va rappeler, voilà.
Voilà, alors moi je l'ai trouvé à la bibliothèque de Gardanne. J'ai vu qu'on pouvait le commander pour la somme de 12,95 € sur Internet. Et alors, c'est peut-être un peu cher, mais pas tant que ça. Et en tout cas, c'est vraiment, vraiment un film extraordinaire.
Très bien. Alors, on va rappeler le titre et l'auteur.
Alors, le titre, c'est facile, c'est L'incinérateur de cadavres. L'auteur, c'est beaucoup moins facile, c'est Ruaj, J-U-A-J, Hertz, le nom de famille, H-E-R-Z. Voilà, voyez ce film absolument.
Bien, donc après, ben, merci beaucoup Aude, après cet abominable joyau. Quelques mots très rapides pour évoquer avec vous la naissance d'un nouveau blog. Alors je sais bien que comme il y en a des millions, et c'est la réalité, hein, des dizaines de millions sur la toile, pourquoi celui-ci ? Eh bien parce que c'est moi, voilà, évidemment. Donc voici ce blog, il s'intitule « Pour une littérature corse », et vous êtes très étonné de ce titre, Sébastien.
J'aurais cru que c'était consacré à la littérature hongroise.
Voilà, mais je ne m'interdis pas du tout de faire des relations avec la littérature hongroise. On a commencé avec Dostoïevski et peut-être d'autres personnes, donc bon. Voilà, non, en fait, pourquoi vous parlez de ce blog ? Parce que ça vient dans la suite des Minutes Corse qu'on vous présente, de cet effort qu'on essaye de faire pour évoquer une petite littérature. Il y en a bien d'autres hein, qu'on pourrait évoquer. Enfin, c'est celle que je connais un petit peu et qui me motive. Donc voilà, si jamais vous faites un tour sur le blog, n'hésitez pas à laisser un commentaire, même critique, ça sera très bienvenu. Voilà, ça a commencé et on a que quelques commentaires et quelques abonnés fidèles comme Marco Biancaré, auteur qu'on connaît ici sur les ondes de Radio Grenouille, on en a parlé assez régulièrement, ou de Stefano Cesari qui est un jeune poète corse qui tient lui aussi un blog de traduction littéraire extrêmement intéressant. Donc voilà, ça vous permettra aussi, ça peut servir d'introduction, de porte d'entrée vers cette petite littérature sympathique qui émerge. Et bien sur ces mots, nous allons conclure cette émission.
L'adresse du blog ?
Alors l'adresse du blog, oui. Attention, http://, pour une littérature corse tout attaché, blogspot.com. Un bon conseil, allez sur Google, vous tapez pour une littérature corse, voire même littérature corse, et c'est sur la première page. Donc vous pouvez cliquer et écrire quand vous le voulez. Voilà.
Donc, chers auditeurs au boulot, vous devez adhérer à Zibline.
On adhère à Zibline.
Vous devez acheter l'incinérateur de cadavres ou aller à la bibliothèque. Et oui, vous devez vous connecter dans les plus brefs délais sur Internet.
Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.